France Culture.
Et si nous nous mettions enfin dans la peau des animaux de compagnie, se placer de leur côté pour mieux comprendre leur rôle et leur place d'hier à aujourd'hui, décoder leur regard, leurs pensées, percevoir leurs ressentis, leurs émotions, au-delà de leur utilité et au-delà des fonctions attribuées par nous, les humains. S'intéresser donc au versant animal, passer du côté des animaux, c'est ce que nos deux invités font au quotidien. Chacun dans sa discipline, tout en œuvrant à une meilleure compréhension des relations humains-animaux. Avec nous, pour comprendre ces êtres vivants, acteurs de l'histoire, bien sûr, aux côtés des humains, et questionner aussi les évolutions en éthologie et en histoire animale, deux invités, donc Dominique Autier-Derian, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire comportementaliste et éthologue, directrice de Animal Welfare Consulting, c'est un bureau d'études dédié au bien-être et au comportement des animaux, et vous publiez Animaux de compagnie, un livre paru chez Quae Édition. Et puis avec nous également en distanciel, Éric Baratet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 3, spécialiste reconnu de l'histoire des relations hommes-animaux. On peut dire que vous avez ouvert le chemin et vous êtes co-auteur du livre que vous avez dirigé, Une histoire animale du monde, c'est son titre, un livre édité chez Talendier. Bienvenue à toutes et à tous, bien sûr, fidèles auditeurs et nouveaux venus dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours en partenariat avec le journal Le Monde. Émission préparée par Corinne Amar et Célestine Babinet, avec Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Clara Galivelle.
Regardez toutes les deux là, c'est magnifique là.
Au premier plan, Aura, la chienne Terre-Neuve de Patrick pendant 11 ans. Beaucoup de joie et de réconfort, jusque dans les moments les plus difficiles.
C'est l'amour qu'elle me portait, voilà, c'est cette complicité qu'on a eue ensemble, justement, malheureusement, au décès de ma première femme. Une complicité importante, voilà, c'est... Et puis, tout l'amour qu'on a tous les jours. On pense que le chien va rester tout le temps avec vous. C'est pas possible qu'il parte avant vous, ça fait partie de vous. Ou alors il part avec vous, il peut pas partir avant. Et c'est ça qui fait mal, même si on le sait, consciemment, inconsciemment, se dit que non, c'est pas possible.
Reportage diffusé sur France 3 Bretagne le 27 septembre 2019. Dominique Autier-Derian, on entend dans ce reportage la relation aussi à la rupture du lien, la disparition. Aujourd'hui, il y a des accompagnements, je crois, des services dédiés d'ailleurs qui existent pour franchir le pas. Est-ce qu'on peut parler peut-être de relations sociales avec nos animaux domestiques ?
Alors là, c'est une vaste question qui dépend un petit peu dans quel cadre on se situe. En biologie, on aime bien donner un cadre à tout. Et finalement, on donne une définition et qui dit relation sociale dit espèce sociale. Et dans espèce sociale, il y a espèce. Et donc, une espèce, c'est des animaux qui sont attirés mutuellement les uns par les autres, qui se reproduisent entre eux et qui ont des interactions au sein de groupes parce qu'effectivement, ils sont effectivement attirés les uns par les autres. Donc, biologiquement parlant, éthologiquement parlant, difficile de parler de relations sociales. Pour autant, dans les carcans qu'on s'est donnés dans les études, on a toujours... c'est ce qui nous permet aussi d'avancer, mais finalement, on a étudié les espèces indépendamment les unes des autres au cours de l'histoire de la biologie, finalement. Et c'est assez récemment qu'on s'est intéressé aux interactions entre les espèces. Donc finalement, le carcan dans lequel on s'est mis soi-même, aujourd'hui, quelque part, nous empêche de parler de relations sociales au sens strict. Pour autant, on s'autorise à parler de sociétés hybrides, en biologie. Et effectivement, quand on dépasse et qu'on va vers les sciences humaines, où on s'autorise beaucoup plus à sortir de cadres donnés, bon, c'est pas dérangeant de parler de relations sociales. Et puis, en plus, quand vous vous adressez à des vétérinaires, nous, on parle aisément de relations sociales entre nous. les humains et les animaux.
Il faut dire que 85% des Français à peu près considèrent leur animal domestique comme un membre de la famille. Rappelons peut-être quelques chiffres. En France, il y a, parce que c'est aussi des compagnons, on le voit, et donc de plus en plus l'isolement social aussi des personnes est renseigné. 5,5 millions de personnes souffriraient d'un isolement social en France, c'est quand même 8% de la population totale, et donc potentiellement, effectivement, les animaux deviennent aussi ces compagnons ou ces facilitateurs de contacts sociaux.
Oui, c'est cette notion-là, c'est l'idée que une personne seule dans la rue, finalement, elle aura peu de chances d'être interpellée. Une personne qui se promène avec principalement un chien, elle a toutes les chances que quelqu'un réagisse. Alors des fois, c'est pas forcément des réactions agréables, mais déjà, il y a un début de dialogue. Et c'est pour ça qu'on parle de facilitateur social. Alors il y a des quantités d'études scientifiques qui ont montré à quel point, justement, la présence d'un animal améliore le rythme cardiaque, diminue le stress, etc. chez des patients sains ou chez des patients effectivement malades, souffrant de tout un tas de pathologies, y compris de pathologies psychiatriques ou métaboliques. Donc oui, il y a vraiment un bienfait qui est apporté par la présence des animaux. Maintenant, il ne faut pas tout mettre tout beau. Il y a aussi des effets dont je parle justement dans le livre. Il y a des effets qui sont aussi délétères, causés par la présence des animaux ou dans l'interaction avec les animaux, parce qu'il y a des maltraitances, il y a des relations qui sont dysfonctionnelles entre les humains et les animaux. Donc voilà, il n'est pas question de tout rendre tout beau, tout joli dans cette relation, comme dans les relations humaines, après tout.
Et oui, parce qu'il faut alors rappeler aussi qu'en France, on compte environ 10 millions de chiens domestiques, 16,6 millions de chats, mais la France affiche un taux d'abandon record en Europe, je crois, avec 200 000 animaux par an. Voilà, rappelons aussi cela dans ces relations. Éric Baratet, peut-être que vous avez envie de réagir au reportage que nous avons entendu, et puis ce sera l'occasion aussi avec vous de comprendre pourquoi il est devenu nécessaire aussi de se pencher sur l'influence des animaux auprès des humains, leur véritable rôle, construire la version animale du monde humain.
Oui, le reportage montre bien à quel point ces animaux, comme vous l'avez dit, sont devenus des membres de la famille, des enfants de la famille, ce qui n'était pas le cas encore au milieu du XXe siècle. On parlait plutôt au XIXe siècle d'amis de la famille pour le chien. Et l'intégration s'est faite vraiment à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Et puis surtout, ça a touché toutes les classes sociales. C'est aussi une nouveauté de notre époque. Auparavant, c'était quand même limité essentiellement à la bourgeoisie, l'aristocratie. Et les années 50-60 ont vu une démocratisation extrêmement forte du phénomène animal de compagnie, jusqu'à s'implanter fin XXe siècle dans les campagnes, auprès des paysans qui ont été longtemps réticents. Pour eux, un animal devait travailler. Et maintenant, je vois en Haute-Loire, par exemple, que je connais bien, on voit des chiens se promener avec leurs maîtres dans les tracteurs. Ils ne leur servent plus à rien, si ce n'est qu'à tenir compagnie, et c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure.
Oui, alors pourquoi s'intéresser au versant animal? Pourquoi c'est si important, selon vous, Éric Baratet, pour reprendre votre expression, ce versant animal? Donc passer du côté des animaux, s'attacher au point de vue des animaux, l'humanité a tout à y gagner?
Oui, parce que ces animaux ne sont pas des objets, ne sont pas des choses, contrairement à ce qu'on a pensé un temps, ou contrairement à ce qu'on fait inconsciemment. On a longtemps pensé les relations humaines-animales à sens unique. C'est l'homme qui impose sa volonté à l'animal, et l'animal finalement est passif, est un objet malléable. Or, évidemment, la science, mais aussi l'éthologie, la vétérinaire, mais aussi l'histoire, etc., montrent que ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes devant des êtres vivants qui sont de véritables acteurs. Donc, si on veut bien comprendre la relation entre les hommes et les animaux, on ne peut pas en rester au côté humain. Il faut passer du côté animal. Et maintenant, on a les moyens, avec les sciences actuelles, au moins de comprendre en partie ce qui se passe. Et ça permet, en effet retour, de mieux comprendre aussi les attitudes humaines, parce que les humains dans le quotidien savent bien qu'ils ne sont pas devant un objet, hein, mais devant un être vivant. Et c'est pas simplement avec son animal de compagnie. Les paysans autrefois avec leurs vaches ou les chevaux dans les mines, il fallait faire avec, hein, l'animal pouvait refuser de travailler ou se mettre en grève ou voir complètement dépérir, hein. Donc cette idée qu'il faut tenir compte, elle a été un peu niée en science, mais dans la vie concrète, dans la vie quotidienne, elle était prise en compte. Alors, plus ou moins, hein, selon les individus humains qui voulaient écouter, regarder, ou alors ne pas voir du tout et qui souvent employaient la violence. Mais ça permet donc de mieux comprendre les choses. Et puis, il y a une deuxième raison aussi, ça permet d'accéder à d'autres vivants, d'étudier d'autres vivants, et finalement, il n'y a pas que l'homme à étudier, au contraire, hein, ça enrichit la vision du monde actuel ou passé.
Alors nous allons comprendre, bien sûr, au fil de l'émission avec vous, notamment Éric Baraté, en quoi, quand on est historien, les sources existent, ou alors il faut les questionner autrement, retourner les dires, par exemple, pour savoir comment les animaux ont vécu ou vivent l'histoire du monde. Nous allons en parler, bien sûr, au cours de l'émission, mais il faut aussi préciser, Éric Baraté, que vous portez le regard sur les autres savoirs, comme le travail des éthologues, et la révolution récente en ce domaine est là. Dominique Autier-Derrien, quelles ont été les avancées, justement, en éthologie sur ce terrain?
Alors, les avancées en éthologie, elles sont considérables depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que, finalement, si on schématise un petit peu ce qui s'est passé en éthologie animale, hein, l'éthologie, c'est la science du comportement, mais qui étudie aussi les humains, ben, finalement, il y a eu les philosophes anciens, Aristote, par exemple, qui avait largement conseillé d'étudier les animaux pour comprendre l'humain. Après, il y a eu Darwin, quand même, qui a dit que c'était le comportement des animaux qui permettait leur survie. Donc, étudier le comportement, c'est vital pour comprendre comment les animaux évoluent aussi. Et puis après, il y a eu, au XXe siècle, il y a eu ces deux courants de pensée, finalement, qui se sont affrontés entre les éthologues d'Europe de l'Est, pour qui le comportement s'expliquait de manière innée, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, les psychologues expérimentaux, pour qui tout comportement était le fruit de l'apprentissage. Donc, ces deux clans d'éthologues se sont affrontés. Alors, bien sûr, maintenant, on sait que pour tout comportement, il y a un fond génétique, et puis sur lequel vont s'exercer des expériences. Et puis, dans toute cette évolution-là, on s'est pas du tout intéressé aux animaux de compagnie, au comportement des animaux de compagnie. J'irais, un des rares scientifiques qui s'y est intéressé, à ma connaissance, c'est Pavlov, qui travaillait sur la digestion et qui, finalement, a découvert le conditionnement classique, et puis qui appelait ces animaux par des noms. Hein, il faisait de l'expérimentation animale, mais il appelait ces animaux par des petits noms. Donc, on ne s'est pas intéressé aux animaux de compagnie. Donc, quand je vois, par exemple, quand j'ai commencé, moi, mes études vétérinaires, il n'était pas question de travailler sur le comportement des animaux de compagnie, parce que c'était un petit peu considéré en éthologie comme une espèce, comme des espèces dégénérées par les interactions avec l'humain.
Et vous n'aviez pas de cours non plus, hein?
Alors, on n'avait pas de cours du tout. Et voilà, alors que c'était complètement absurde, parce que finalement, le premier signe clinique de maladie, enfin le premier signe, pardon, de maladie, c'est souvent un signe comportemental. Un animal qui a mal au ventre, il va se vousser, un animal qui a mal quelque part, il va changer de comportement. Voilà. Donc, pendant finalement mes années vétérinaires, moi je me suis intéressée au comportement, donc forcément aux primates. Et puis, quand j'ai voulu m'intéresser au comportement des animaux de compagnie, il y avait beaucoup de réticence pour mes encadrants. Voilà. Donc après, effectivement, de manière concomitante, il y a eu des chercheurs qui ont apporté, qui ont permis un changement complet de paradigme. Il y a eu Hart, Tomasello, dans les années fin des années 90, hein, qui tout d'un coup se sont rendus compte que les espèces domestiques avaient des compétences, avaient acquis des compétences, des particularités que n'avaient pas d'autres espèces. Donc finalement, c'était ça qui était intéressant, et que ces compétences, elles auraient pu être acquises du fait d'interactions très prolongées au fil de leur évolution avec l'humain. Donc là, branle-bas le combat, tout d'un coup, en éthologie, on s'est intéressé aux animaux de compagnie.
Mais c'est très récent, en fait. Fin du 20e, quoi.
Ça date d'une trentaine, d'une trentaine d'années. Et ça a fait boule de neige, vraiment. Et puis après, il y a toute l'imagerie et tout ça qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin.
Aussi. Donc, les comprendre, les décoder, les analyser, les percevoir, hein, avec leurs besoins, leurs ressentis, cette prise de conscience, hein, qui évolue. En tout cas, on peut dire que la désignation et la place des animaux a aussi changé dans le temps et évolue avec nos regards. Écoutez l'histoire de cette femelle sanglier dans l'Aude, un reportage diffusé sur France 3 le 12 décembre 2024.
Rillette est sans aucun doute le sanglier le plus célèbre de France. Depuis près de deux ans, il partage la vie d'Élodie et Édouard à Chaours dans l'Aube, auprès des autres chiens et chevaux. Recueilli par la famille, il est aujourd'hui menacé de mort, une décision inacceptable pour eux.
Elle est au même titre que nos chiens, donc alors je la considère pas comme un animal de compagnie, mais j'ai exactement la même interaction qu'avec nos propres chiens, nos propres chevaux. Elle fait partie de ma famille.
Problème, sur le plan légal, il est interdit par la loi de recueillir, d'acheter ou transporter un mammifère dont la chasse est autorisée. La famille a bien fait deux demandes de détention d'un animal non domestique, mais les deux fois, leur demande a été refusée. Et aujourd'hui, Élodie risque du pénal.
On me parle de garde à vue, on me parle de prison, on me parle d'amende. Je pense que la situation est très ironique, je pense sincèrement. Après, il y a des lois, je peux ne pas passer au travers et j'espère que je vais passer au travers. Et j'espère que les hommes politiques, hommes et femmes politiques, vont surtout parler avec leur cœur. Voilà.
Désormais, la famille a décidé de se battre pour Rillette, qui risque tout simplement d'être abattue. Élodie et Édouard comptent bien soutenir leur sanglier jusqu'au bout.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et puis finalement, Rillette a été autorisée à rester dans la famille, ça c'est quand même la bonne nouvelle, mais dans un enclos spécifique. Animal domestique ou pas animal domestique, Dominique Autier-Derrian?
Alors en fait, souvent il y a une confusion entre animal de compagnie et animal domestique. En fait, un animal de compagnie, c'est un animal qui est détenu par un humain pour son agrément. Ça peut être un animal domestique ou pas un animal domestique. Si c'est un animal domestique, dont effectivement la définition biologique, c'est une espèce qui dont l'homme gère la reproduction, contrôle la reproduction, qui est nourrie par l'homme, qui est apprivoisée par l'homme, qui a évolué aussi, qui a subi une évolution morphologique, etc. au fil du temps. Il y a une définition, il y a un article de loi qui dit, voilà, la liste des espèces domestiques est celle-ci. Il y a des oiseaux, des reptiles, etc. C'est des animaux domestiques. Et voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez les détenir. Dans les animaux de compagnie, il peut y avoir des espèces non domestiques. Mais en fait, la loi, elle est là aussi pour protéger les animaux. Donc, s'il s'agit d'une espèce qui est non domestique, enfin, la loi, elle est surtout là pour protéger les animaux. Lorsqu'il s'agit d'une espèce non domestique, eh bien, pour les personnes qui veulent détenir des espèces non domestiques, des espèces sauvages, il faut qu'ils soient détenteurs de certificats de capacité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils montrent à un jury qu'ils sont en capacité à la fois physique, qu'ils peuvent héberger des animaux dans des conditions qui correspondent à leurs besoins et qu'ils connaissent les besoins biologiques de ces espèces.
Ils s'y engagent et ils ont toute la connaissance.
Donc c'est possible, moyennant bien sûr certaines espèces, mais voilà, il ne faut pas confondre animaux de compagnie et animaux domestiques.
On peut juste préciser aussi, puisqu'on en est aux articles, au code ou à ce qui... réglemente les droits, la législation concernant les animaux, de compagnie ou domestiques. Les animaux sont toujours dans la catégorie des biens meubles, ce qui surprend souvent, même si on leur reconnaît depuis quelques années d'être doués de sensibilité. C'est toujours le cas ?
Alors, les animaux sont protégés par... Rapidement. Ouais. Les animaux sont protégés par plusieurs codes. Ouais. Dans le code rural, les animaux sont des êtres sensibles. Le code rural gère les animaux qui sont utilisés à des fins professionnelles et, dans certains cas, des animaux de compagnie. Le code civil, c'est la propriété individuelle. Donc, en fait, le code civil a reconnu en 2015 que les animaux étaient des êtres sensibles. Mais pour autant, il n'y a pas eu de décret d'application. Donc, du coup, les animaux, au titre du code civil, sont toujours considérés comme des biens meubles. C'est pas très grave, finalement, parce que, certes, s'il y a un vol d'animal de compagnie, finalement, ce vol sera traité comme si c'était un vol d'ordinateur. Mmh. Voilà. Pour autant, la loi de novembre 2021 a renforcé la protection, finalement, des animaux de compagnie aussi, en augmentant les peines par rapport à toutes les maltraitances. Donc,
la loi du 31 novembre 2021.
Voilà. Donc, globalement, finalement, les animaux de compagnie
sont quand même protégés.
Bien protégés, beaucoup mieux protégés, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire changer.
Oui, parce que être dans la catégorie des biens meubles, mine de rien, on voit bien qu'il y a une augmentation des vols d'animaux, si je ne m'abuse, ou en tout cas, c'est peut-être plus médiatisé.
Pour autant, les textes d'application de la loi maltraitance permettent vraiment de sanctionner beaucoup plus de choses qu'auparavant.
Et c'est appliqué. Donc, les sanctions,
En
moyenne, on risque quoi quand il y a maltraitance ou vol ?
Alors, ça dépend, c'est toujours l'aspect intentionnel ou pas.
Oui.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous m'avez dit qu'il n'y a pas le temps. Si c'est non intentionnel, c'est une contravention. Mais dès lors qu'il y a des mauvais traitements intentionnels, ça passe sous forme de délit. Donc les actes de cruauté, les mauvais traitements, les sévices graves, les sévices d'ordre sexuel,
oui, la zoophilie,
tout ça, ça passe en délit. Et si c'est des professionnels, généralement ça bascule directement de contravention.
Donc
délit,
c'est-à-dire
même si,
de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 ou je ne sais pas combien d'euros.
C'est maximum, mais ça peut aller très loin. Et en fait, il y a des comparutions immédiates. Quelqu'un qui, par exemple, va médiatiser une maltraitance, c'est des comparutions immédiates. Non, ça avance dans le bon sens.
Éric Baratet, ça doit vous faire réagir, nos discussions, bien sûr. Historiquement, les humains se sont toujours considérés en haut de la pyramide du vivant.
Oui. Alors ça, c'est une vieille conception, sans doute très ancienne, dont les premières traces remontent à l'Antiquité grecque. On a ça chez Aristote, chez Platon, chez beaucoup de philosophes grecs, pas tous, il y a des exceptions. Et cette vision a été reprise par le christianisme. En fait, le christianisme a beaucoup utilisé les philosophies grecques pour interpréter la Bible. Et du christianisme, c'est passé dans nos philosophies occidentales, dans la science occidentale, ou dans la culture occidentale. Et ça a fait beaucoup, évidemment, pour penser les animaux comme des objets ou comme des êtres ayant des capacités beaucoup réduites, beaucoup inférieures aux nôtres. Hein, ce qui légitimait un sentiment de supériorité. Évidemment, nos codes reflètent encore cela, même si, vous l'avez mentionné, ça commence à changer, on commence à prendre en compte les réalités scientifiques sur les animaux, mais il y a aussi de très fortes résistances. La loi de 2015 a été un espèce de compromis voulu par certains politiques, on cède aux uns, c'est-à-dire l'animal sensible, mais en même temps on prend des précautions pour qu'il n'y ait pas véritablement de conséquences concrètes, de manière à ne pas effaroucher les éleveurs industriels, les chasseurs, les aficionados de corrida, etc., etc. Donc les lobbies sont quand même très forts et ça entraîne des compromis entre les uns et les autres, qui sont plus ou moins boiteux, qui marchent plus ou moins bien.
Oui.
Et comme vous l'avez dit, encore faut-il qu'il y ait des lois, mais encore faut-il que les magistrats veulent bien s'emparer des sujets.
Un peu plus massivement.
Ça reste encore un problème actuellement.
Dominique Autier-Derian, sur ces questions-là.
Je voulais renchérir, merci Eric, et préciser que les animaux sauvages, leur protection est gérée par le code de l'environnement et que au titre, enfin, dans le code de l'environnement, ils ne sont pas reconnus comme des êtres sensibles. Donc, seules les espèces sauvages protégées bénéficient d'une protection. Un hérisson bénéficie d'une protection. Un sanglier ne va pas bénéficier d'une protection. Donc, ça, c'est des évolutions qui doivent vraiment se faire, qu'on attend tous avec impatience. Et voilà, ça, c'est vraiment un gros manquement, puisque cette même espèce, si on la capture, dans ce cas-là, elle bascule sous la protection du code rural et elle devient une espèce sauvage détenue. Donc, du coup, elle devient sensible.
Des évolutions en cours, hein. On le perçoit aussi à travers vos mots, Dominique Autier-Derian. L'utilisation des chiens, notamment, ou des animaux, mais comme auxiliaires de chasse, par exemple, gardiens de troupeaux, transporteurs de charges. On voit aussi ces témoignages, bien sûr. Ce sont des relations qui commencent par du commensalisme, avant d'évoluer vers du mutualisme, à l'image aussi des animaux dans la guerre.
En 14-18, les pigeons voyageurs étaient des soldats volants. Malgré les bombardements, la fumée ou la brume, en toutes circonstances, ils accomplissaient leur mission. Ce vaillant volatile, lancé en pleine bataille de Verdun, est un symbole de courage.
Les Allemands ont tiré sur ce pigeon qui portait un message. Ce pigeon avait une aile arrachée, enfin bien blessé une aile, une patte cassée, un œil crevé. Il a quand même accompli sa mission et ensuite il est mort. Mais il a sauvé 194 poilus.
Le pigeon, c'était le dernier instant, c'était le dernier moment, la dernière ressource pour demander du secours à l'extérieur. Donc le pigeon a été très très important.
Des pigeons, des chiens, des rats ou encore des chevaux, ces animaux guerriers ont été dressés pour combattre aux côtés des soldats.
On parle d'1 200 000 chevaux qui sont décédés, qui ont été tués pendant la guerre. C'est vous dire que tous les animaux ont eu leur part, hélas.
Des héros oubliés de la Grande Guerre, parmi ces combattants non volontaires, le meilleur ami de l'homme, compagnon de tous les instants.
C'était plus le chien, en fait, qui prenait le relais pendant que le soldat prenait se reposer ou dormait un petit peu. Et c'était le chien qui prévenait, en fait, de l'avancement ou de l'arrivée de l'ennemi.
Là, on explique que le chien sanitaire découvre un corps. Le chien prélève quelque chose pour dire « il y a un blessé à tel endroit ».
Certains ont été décorés par la Croix de guerre. Le plus connu reste le sergent Stubby. Ce chien a participé à 17 batailles, dont celle du chemin des dames.
Reportage diffusé sur France 3 Occitanie le 6 novembre 2018. Éric Baraté, vous le rappelez dans votre livre, environ 8 millions de chevaux, 3 millions de mulets, d'ânes, 100 000 chiens, 200 000 pigeons enrôlés sur le front ouest et des milliers d'animaux domestiques et sauvages. On voit bien combien ces animaux sont embarqués dans l'histoire globale, vécue par les humains et donc avec eux. Dites-nous comment... Est-ce que vous, en tant qu'historien, et comme vous avez ouvert la voie, et ceux qui s'emparent de cette histoire versant animale, comment est-ce qu'on travaille, avec quelles sources, quels témoignages, la littérature peut-être des vétérinaires, voilà, comment vous percevez, notamment sur ces animaux en guerre, par exemple, pour comprendre ce qu'ils ont vécu et depuis leur ressenti?
Oui, bah si on prend justement le cas des animaux en guerre, eh bien, finalement, on a plein de documents. Hein. Simplement, on ne voulait pas les voir, on les négligeait. Et puis, pendant longtemps aussi, on n'a pas voulu voir le rôle des animaux hein, dans les guerres. Hein. Les historiens ne sont arrivés à cela que très récemment, depuis 10-15 ans, hein, guère plus. Et alors, comment faire? Eh bien, comme je vous le disais, il y a plein de témoignages, notamment dans les mémoires, dans les lettres, dans les livres. Un livre comme celui de Maurice Genevoix, ceux de 14, est plein de mentions d'animaux. Alors, à l'inverse, il y en a d'autres. Il y a d'autres soldats qui n'en parlent peu. Hein. J'avais trouvé un artilleur qui avait passé toute la guerre avec un attelage de chevaux de canon de 75, donc il en avait 6, hein. Qui ne dit pas un mot dans ses mémoires sur les chevaux. À un moment, il dit « les canons arrivent au galop ». Comme expression pour éliminer les chevaux, c'est assez cocasse. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de mentions, et ces mentions, bah, ce sont des indices, des traces, que l'on peut donc relever, et qu'il faut croiser avec ce qu'on sait actuellement en matière de physiologie, de médecine vétérinaire, de maladie, d'éthologie, de comportement. Et on arrive à voir relativement bien Hein, alors évidemment pas à 100%, parce que les textes ne nous disent pas tout, les images non plus, mais je dirais qu'on arrive quand même assez bien à voir ce qui s'est passé, par exemple, du côté des chevaux ou du côté des chiens pendant la guerre. Hein, et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux d'être enrôlés, la rupture avec leur quotidien, se retrouver dans des trains, par exemple, qu'ils n'avaient jamais essayé, se retrouver avec dans les combats. Donc là, il y a toute une littérature et des films et des cartes postales et des images qui permettent de se renseigner. Et donc, il faut faire une espèce de croisement des sciences entre l'histoire d'un côté et puis les sciences animalières, on pourrait dire, de l'autre, pour arriver à comprendre. Et ça marche relativement bien. Donc là, c'est le cas de la guerre, mais on peut aussi faire la même chose sur les corridas, les chevaux de mine, etc., les chiens errants à l'époque moderne. Enfin, il y a... Ou faire aussi des biographies d'animaux. Hein, il y a plein de cas possibles maintenant avec cette méthode.
Et faut-il le rappeler, hein, à l'issue de la Première Guerre mondiale, notamment, donc des médailles ont été octroyées, hein, officiellement côté anglo-saxon et germanique, officieusement côté latin. Et puis on peut repérer aussi quelques monuments dans l'immédiate après-guerre, hein, qui étaient justement dédiés au courage de ces animaux. Dominique Autier-Derian, on voit bien aussi que aujourd'hui on travaille un peu plus sur notre capacité, hein, à basculer dans le versant animal. C'est-à-dire à être capable de comprendre aussi leur façon de nous dire des choses, c'est-à-dire décoder les signaux, se démarquer de notre anthropomorphisme, parce qu'eux sont totalement capables de comprendre les signaux des humains, pour le coup.
Alors, tout à fait, je voulais juste rebondir, parce que c'était un très bon exemple de pluridisciplinarité sur l'exemple précédent. En fait... Quand j'entends cet exemple-là, moi, je pense à deux choses. Ça m'évoque deux choses importantes dans ma vie professionnelle. Donc, je travaille pour l'armée, pour les chiens de l'armée. Et donc, pour ces chiens qui sont entraînés, qui sont vaillants, qui sont médaillés, et pour lesquels il peut y avoir aussi, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, des problèmes parce que ils sont face à des situations qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est mon volet éthologue. Donc je dirais le premier aspect, c'est la médecine comportementale, l'équivalent de la psychiatrie en médecine vétérinaire. Et le deuxième volet, c'est l'éthologie au sens éthologie cognitive. En fait, j'ai travaillé sur les capacités de catégorisation des chiens quand ils voient des images. Est-ce qu'ils sont capables de se dire, l'image que je vois, c'est un chien ou c'est un chat ou c'est voilà, est-ce qu'ils sont juste sur une image capables de faire comme les enfants, finalement, de les mettre dans des patates. Et ces travaux, en fait, sont issus justement de travaux sur les pigeons qui ont démarré dans les années 70, notamment chercheurs... j'espère que je ne me trompe pas, mais qui s'appelait Hubert, donc qui entraînait des pigeons à regarder des images. Et est-ce que sur ces images, il y a des humains, il n'y a pas d'humains? Est-ce que c'est une forme connue, pas connue? Et les pigeons sont les champions de la discrimination et de la catégorisation. Ils sont mais incroyables, quoi. Et on leur apprend des formes très compliquées, très tordues, en forme d'asticots. On leur apprend 800 formes et on lui en montre une et ils sont capables tout de suite de dire que c'est une forme connue ou inconnue. Voilà. Et donc, en fait, quand j'entends ce reportage, en fait, moi, je pense aux capacités de catégorisation de ces animaux qui, en passant à travers les gaz qui sont très toxiques, notamment pour leur odorat, ils ont un puissant odorat, mais malgré tout, visuellement, ils sont capables de reconnaître que finalement, ces tenues, c'est des tenues de l'armée française, d'alliés ou au contraire d'ennemis. Et voilà ce que j'entends moi quand
quand vous entendez le reportage,
pour une même histoire.
D'où l'intérêt de la pluridisciplinarité, voilà. Bien sûr.
Et j'ai pas répondu à votre question.
Non, mais c'est-à-dire que finalement, est-ce que décoder le langage des animaux qui eux nous décodent très bien, est-ce que c'est plus difficile? On voit bien que on perçoit peut-être plus facilement le sonore, c'est-à-dire vraiment ce qu'ils nous disent par leur voix, mais les mimiques. Je crois que vous êtes fait prendre d'ailleurs sur le décodage des mimiques. C'est assez difficile quand même.
Alors, on voit bien finalement l'évolution, hein, quand on présente spontanément des images d'humains qui sourit pas, etc., à des espèces animales telles que les ruminants, petits ou grands, à des singes, à des chiens, ils sont tout à fait capables de savoir si l'humain est de bonne humeur ou pas de bonne humeur, s'il le connaît, s'il le connaît pas, etc. Nous, c'est soumis à un apprentissage. Sans doute qu'eux aussi, ça a été soumis à un apprentissage à la fois au cours de leur évolution et à la fois depuis qu'ils sont petits. Il y a forcément, c'est les expériences de vie qui font que il y a un apprentissage constant. Ce que je veux dire, c'est que finalement, au cours de l'évolution, nous, c'est seulement maintenant qu'on apprend à décoder correctement les signaux des animaux. Les enfants se rendent compte que finalement, c'est à partir d'un certain âge qu'ils acquièrent certaines compétences. Et voilà. Après, quand on étudie, par exemple, en IRM fonctionnel, comment les cerveaux, c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui on a accès à ces données-là, comment les cerveaux analysent des sons, des cerveaux de chiens, des cerveaux d'humains. On se rend compte qu'il y a finalement beaucoup de choses comparables par rapport à des cerveaux. Quand on, selon les sons que les animaux entendent ou que les humains entendent, les chiens sont sensibles à la parole humaine, sont plus finalement sensibles à des aboiements de chiens, mais sont tout à fait capables de décoder et de savoir quel type de paroles, si c'est des paroles agréables ou désagréables, au même titre que visuellement, ils sont capables juste de décoder. Donc là, finalement, nous, c'est un apprentissage qui est sans doute plus tardif au cours de l'évolution, mais n'empêche que, comme le disait Eric, l'éleveur, pour ne pas dire le paysan, il savait très bien quand même décoder son chien depuis tout le temps. Je veux dire, on a su quand même. Voilà.
On va justement donner la parole rapidement à Eric Baraté. Allez-y, avant de découvrir votre choix musical, Dominique Autier-Derian, et je pense que les animaux aiment bien la musique également. Et Eric Baraté ?
Oui, ses capacités sont aussi variables dans le temps, hein. Parce que les relations ont beaucoup évolué, les situations ont beaucoup évolué. Un chien errant du XVIIe ou du XIXe siècle qui se méfiait des humains n'avait pas la même capacité à décoder les visages, par exemple, qu'un chien de compagnie actuel. Hein, pareil pour les vaches, par exemple, les vaches qui étaient laissées une bonne partie de l'année dans les landes ou dans les forêts en Bretagne ou dans les Pyrénées étaient relativement, même assez réservées vis-à-vis des paysans. D'ailleurs, il y a un dicton dans l'Ariège qui dit que les vaches d'autrefois étaient méchantes. Hein, non pas qu'elles l'étaient, mais elles ne connaissaient pas bien les humains.
Mais oui.
Et à l'inverse, lorsqu'on s'est mis à rapprocher ces vaches des humains, en les mettant dans des étables, en les gardant auprès des fermes, là, on a vu un décodage réciproque se mettre en place entre humains et vaches. Et c'est la même chose pour les chiens. Donc, il y a aussi une forte variabilité dans le temps. Hein. C'est ce qui rend d'ailleurs les choses intéressantes.
Bien sûr. Alors, votre choix musical, Powo, qui chante Le Chat, expliquez-nous peut-être, Dominique Autier-Derian, en dehors du fait qu'on parle des animaux, mais c'est une chanson que vous affectionnez peut-être.
Il y en a plein, mais celle-là, elle est amusante, dynamique, et du coup,
vous m'avez posé
la question, j'en avais plusieurs. Et j'avais pensé à l'oiseau malin de Souchon parce que je trouvais qu'elle faisait vraiment très écho à l'actualité par les paroles. Et puis finalement, pour vous, c'est plus drôle.
Allez, le chat.
Voilà.
Moi, vouloir être un chat. M'affronte contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, moi toujours rester à toi. Prendre des mitchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi.
Effectivement, ça donne envie, hein, cette chanson, ça doit plaire. On l'espère pour nos auditeurs. Et c'est la suite de De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre immersion dans la peau des animaux de compagnie. S'intéresser au versant animal, passer du côté des animaux, c'est ce que nous vous proposons avec nos deux invités. Dominique Autier-Derian, vétérinaire comportementaliste et éthologue, auteur du livre Animaux de compagnie, un livre édité chez Quae, et Éric Baratet, membre senior de l'Institut universitaire de France, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 3 et co-auteur et directeur du livre Une histoire animale du monde, un livre édité chez Talendier. Alors, on a parlé du milieu militaire avec vous, hein, Dominique Autier-Derian, parce que moi, cela me fait penser aussi au binôme, hein, constitué en OPEX, en opération extérieure, entre militaires et leurs chiens, dans une relation de travail, des situations traumatiques, hein, qui les unissent. Il a fallu attendre quand même la fin du XXe siècle pour commencer à soigner les troubles psychiques des animaux. Que sait-on justement de leur mal-être aussi, de la contagion émotionnelle, de leur souffrance peut-être, parce qu'on leur demande quand même beaucoup et de plus en plus dans la société d'aujourd'hui d'absorber nos souffrances. Hein. La zoothérapie, la thérapie assistée dans les EHPAD, dans les écoles, dans les tribunaux, les chiens partenaires de vie et de justice, etc. On peut multiplier aujourd'hui où on en est de la prise en compte peut-être et puis de la façon dont on repère le mal-être chez les animaux.
Alors, il est de mieux en mieux repéré, mais l'exemple que vous évoquiez, il faut rajouter l'animal de particulier, parce que, en fait, dans le premier témoignage, c'est magnifique, ce témoignage est très émouvant, il n'empêche que la chienne est le substitut de l'épouse décédée. Donc, finalement, on se retrouve en consultation avec des animaux qui finissent par aller mal par trop d'amour de la part de leur détenteur. Donc, il n'y a pas un milieu qui échappe à ça. Dans le milieu de la médiation animale, ça c'est qui est très large, hein, qui peut, comme vous l'avez dit, aller de thérapie assistée par l'animal en psychiatrie à des choses très courantes, plus courantes, plus organisées d'ailleurs, plus organisées y compris réglementairement, comme les chiens guides d'aveugles, comme les animaux d'assistance, effectivement en EHPAD, etc. Donc, moi j'ai participé plusieurs fois, hein, il y a 30 ans, 20 ans, à me faire l'écho des émotions des animaux dans des colloques qui étaient dédiés à l'utilisation de ces animaux. Aujourd'hui, c'est pris en compte. Franchement, c'est beaucoup mieux. Les dernières études, parce que là, je viens de refaire une revue bibliographique là-dessus, justement, pour un travail pour des psychiatres humains. Et justement, on se rend compte que même si effectivement les intervenants, donc ceux qui amènent l'animal, sont tout à fait bien formés pour décoder les signes de stress des animaux, mine de rien, des comportements de patients qui peuvent avoir des comportements soudains, il y a un stress chez l'animal. Hein. Il y a des études qui ont été faites, qui ont montré que, moi, on parlait de médiation animale, y compris avec des animaux de parc zoologique, et puis c'est avéré qu'effectivement, avec les outils éthologiques qu'on a aujourd'hui, il y a un stress chez les animaux. Donc, finalement, tout évolue quand même. Moi, je suis de nature très optimiste, hein, dans le bon sens. Certes, il y a encore énormément de cas où qui demandent à s'améliorer, mais il y a une meilleure connaissance. Et encore une fois, le vétérinaire est l'interlocuteur de choix pour justement accompagner tous les projets qui peuvent avoir lieu dans ce domaine, parce que on est dans le domaine du bien-être animal et ça couvre tous les aspects sanitaires, physiques, émotionnels. Donc vraiment
les animaux sauveurs de vie, les animaux soldats, les animaux détecteurs de maladies neurodégénératives, cancers, métaboliques, etc. C'est aujourd'hui ce monde, hein, et celui de nos relations avec eux. Et puis vous parliez des vétérinaires. Eh bien il y a malgré tout, il faut aussi en tenir compte, une contagion émotionnelle, hein, qui peut toucher les vétérinaires, qui en dit long aussi sur nos relations tissées. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France Inter le 30 juillet 2023.
En fait, on va avoir essentiellement des cours théoriques, à mon sens, qui sont plus là pour nous dire bon ben voilà, on a averti les vétérinaires, on est au courant que voilà le mal-être est présent, le taux de suicide est élevé, donc. Et en fait, on a des cours théoriques qui sont assez vides, quand même. On va nous parler, par exemple, d'intelligence émotionnelle ou de fatigue compassionnelle. Du fait que, en fait, on ne doit pas intérioriser la pensée du client, la détresse du client, etc. C'est facile à dire, c'est autre chose quand on enchaîne 4 euthanasies en une matinée, quoi. Donc, quand on est confronté à la réalité, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est assez dur de s'y préparer. Et en fait, en parlant avec les professionnels, beaucoup nous disent que en commençant dans la pratique, le principal problème, c'est pas tant les connaissances théoriques, c'est de se confronter au public, de se confronter aux clients et de prendre l'habitude de gérer les émotions du client, etc. Et beaucoup disent qu'en fait, à la fin, on arrive à prendre du recul, mais que ça vient qu'avec l'expérience, quoi. Donc, entre guillemets, la détresse émotionnelle est un petit peu inévitable pour réussir à prendre le recul.
Dominique Autier-Derian, une profession, on l'entend, hein, touchée par un phénomène d'épuisement émotionnel. Pourquoi déjà ? Est-ce qu'on le perçoit, mais il y a peut-être des raisons plus profondes, diverses ?
Alors les raisons ont été identifiées, il y a beaucoup de surmenage, hein, on est Shiva, multifonction. Mais effectivement, d'être confronté au quotidien à la souffrance animale et humaine, puisque justement il y a cette détresse quand on perd son animal, quand il est malade, etc. Aujourd'hui, il y a même une forme d'agressivité. Hein. On a des incivilités. On est de plus en plus confronté à des incivilités quand on n'arrive pas à sauver l'animal ou à le soigner complètement, etc.
Voilà. Vous pouvez comme aussi déceler de la maltraitance aussi.
Bien sûr. Alors, effectivement, la profession s'est largement mobilisée sur ces questions, continue à le faire. Et donc, justement, ça, c'est très compliqué parce qu'on était très isolés. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, tout vétérinaire n'est plus seul quand il est confronté à un cas de maltraitance animale. Il y a des référents bien-traitance, il y a des possibilités de déclarer directement au service vétérinaire, puis au procureur de la République. Enfin, on n'est plus seul. Et déjà, on sait qualifier ce qui est une maltraitance et ce qui ne l'est pas. Parce que il y a 20 ans, on ne savait pas des maltraitances physiques. Est-ce que donner un coup de pied à un animal, c'était une maltraitance? Il y a 20 ans, je suis sûre que vous auriez interrogé les vétos, c'était pas qualifié de maltraitance. Aujourd'hui, ça l'est, on sait où mettre le curseur. Par contre, pour les maltraitances de titre émotionnel ou les négligences, c'est beaucoup plus difficile de savoir où mettre le curseur. Et aujourd'hui, on est accompagné, il y a des associations, l'association AMA, l'Ordre des vétérinaires. Lundi prochain, il y a les premières assises régionales de la maltraitance animale organisées par l'école vétérinaire de Toulouse et la magistrature, je sais pas comment on dit, magistrature de Toulouse. Enfin, tout ça, ça se développe à une vitesse grand V. La médecine légale vétérinaire se développe. Enfin, voilà, on est vraiment dans une évolution remarquable en très peu de temps.
Et oui, parce que maltraitance avérée, hein, les études ont montré le lien entre maltraitance envers les animaux et comportement déviant dans le cercle familial, par exemple, ou dans des cas de criminalité sur autrui. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un système de signalement croisé de maltraitance?
Alors, c'est un sujet délicat. Quand vous discutez avec les gendarmes de l'OCLAEPS, qui sont la cellule chargée de gérer toutes ces situations, alors encore une fois, j'attends lundi pour avoir confirmation de tout ça, mais ils vous disent que ce système de signalement croisé, finalement, est déjà possible. Dans les faits, effectivement, c'est ce que on demande tous, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà été condamnée pour des faits de maltraitance envers un animal, si elle est condamnée pour des faits de maltraitance envers des humains, généralement à l'intérieur du cercle familial, eh bien que les deux faits soient liés et soient connus. Quand je discute avec des avocates, finalement, ces systèmes-là n'existent pas encore complètement. Mais encore une fois, c'est des choses dont les juristes, dont les députés ont conscience, et c'est des choses qui sont en cours d'évolution. Voilà.
Éric Baraté, autre point peut-être que l'on peut aborder dans ces 8 dernières minutes de l'émission. On voit bien qu'il y a aussi une sélection des animaux de compagnie, que historiquement on a vu des évolutions aussi se faire, hein, et peut-être les premières races qui ont été créées, en tout cas des l'attrait ou des Européens notamment pour certains chats de compagnie plus que d'autres, etc. Aujourd'hui, on vit une sélection hyper typée, hein, dont on parle beaucoup, qui peut satisfaire les humains humain, mais générer aussi des souffrances du côté animal. Quel regard vous portez justement sur cette évolution-là ?
C'est un phénomène qui est assez ancien tout de même, hein, parce que le chien nu, par exemple, mexicain avant la conquête espagnole, ce chien nu avait beaucoup, qui n'avait pas de poils, avait évidemment beaucoup de problèmes pour survivre. Il avait aussi des problèmes dentaires, des problèmes osseux, enfin bref. Mais c'est vrai que cette tendance est accentuée depuis un siècle. On s'est mis à fabriquer énormément de races pour qu'elles conviennent à nos besoins. Alors soit des besoins utilitaires, soit dans le cas des chats, à des besoins surtout esthétiques. Et ça s'est fait en partie au détriment des animaux, hein, évidemment, soit sur des problèmes de taille, soit sur des problèmes de conformation, par exemple, de la tête avec des museaux trop aplatis qui empêchent de respirer ou de bien respirer. Il y a effectivement toute une série de problèmes dont on s'aperçoit maintenant. Auparavant, ça paraissait sans intérêt. Et puis, ça rentrait aussi dans toutes les conformations que l'on a faites pour tous les animaux domestiques. Hein. Alors là, domestiques au sens large, hein, pas les animaux simplement de compagnie, mais on a fait aussi cette sélection, ce formatage des animaux. On l'a fait aussi pour les vaches, les chevaux, les porcs, etc., avec les mêmes problèmes. Et évidemment, ce sont des objectifs humains qui longtemps sont parus prioritaires, plus importants que la santé animale.
Dominique Autier-Derian, sur ces sujets importants.
Bah, c'est un sujet de grande actualité parce que en plus c'est amplifié par les réseaux sociaux. Nous, en tant que vétérinaires, on se retrouve avec des animaux, comme Eric l'a dit, qui ne peuvent plus respirer, donc il faut opérer. On se retrouve avec des femelles qui ne peuvent plus mettre bas, parce que le format, le gabarit des petits est trop large. Il y a une souffrance qui est énorme. Et en fait, on se retrouve avec des personnes qui veulent avoir à tout prix ces animaux avec la face très plate. Alors, ça ne concerne pas que les chiens, pas que les chats, les lapins, les chevaux. C'est vraiment une mode qui est catastrophique.
Et des modes véhiculées par les réseaux sociaux, hein, TikTok,
beaucoup,
Instagram, etc.
Beaucoup,
donc,
beaucoup.
Voilà.
Donc, on a demandé déjà que les entreprises de pet food, etc., n'utilisent plus ces races-là pour leur publicité. C'est pas toujours... Il y a toujours dans des émissions, de la télé, etc., une mode pour ces animaux. Mais c'est des animaux qui souffrent terriblement. Mmh. Et j'ai une amie qui s'appelle Greta Bertelli, qui a étudié tout ça, ce phénomène de mode en Italie, et qui a montré que même si les détenteurs amènent leur animal chez le vétérinaire parce que l'animal peut plus respirer, parce qu'il a des troubles digestifs, parce qu'il n'y a pas que des troubles respiratoires, de reproduction, il y a bien d'autres troubles. Hein. Et du coup, ces personnes-là ont des soins vétérinaires qui sont importants, et pourtant, quand ils sont interrogés, ils n'ont pas l'impression que leur animal souffre. Voilà, c'est ça qui est incroyable.
Alors précisons que les Pays-Bas interdisent la détention d'animaux hypertypés et donc avec une souffrance permanente. Là, on voit bien qu'il y a aussi des évolutions et des prises de décision de cet ordre-là. À l'heure de l'IA, est-ce qu'on peut imaginer le remplacement des animaux domestiques par des robots ou autres intelligences artificielles ?
C'est une question pour moi, ça a déjà été fait. Oui, ça... Eric, peut-être tu veux réagir. Ouais. Alors bien sûr, ça a déjà été fait, bien sûr au Japon, ça a été fait y compris dans des EHPAD hein, en France. C'est des substituts, et bien sûr que de toute façon, à condition que le robot ait déjà une fourrure, quelque chose d'agréable. Hein. On sait très bien que la théorie de l'attachement, elle est née des travaux de Harlow, qui avait, alors c'est des travaux qui seraient plus autorisés aujourd'hui, mais qui avait séparé des bébés singes de leur mère, et ces bébés étaient rassurés quand on leur apportait des espèces de poupées qui se cramponnaient contre ces poupées. Les travaux de Harlow ont été repris par Bowlby, plus tard par Mary Ainsworth sur la théorie de l'attachement, sécure, insécure, enfin.
Oui, de montrer quand les petits sont séparés trop tôt de leur mère, qu'ils manquent d'un être qui les rassure, qui les enveloppe, qui s'en occupe, effectivement, ça peut poser des problèmes et avoir des conséquences.
Ah, mais c'est pas ça peut, ça pose, ça des, pose problèmes des problèmes dramatiques et ça crée des adultes avec des comportements anormaux. Et donc, ce qui a été montré, c'est qu'effectivement, moyennant l'apport d'une sorte de peluche, finalement, les animaux ont un peu moins de comportements anormaux à l'âge adulte. Mais évidemment, ça ne remplace pas. Voilà.
Éric Baratet, tout cela, vous allez pouvoir réagir sur cette question liée à les robots, mais cela doit vous amener aussi à plus que jamais porter votre parole, qui est celle de dire il faut élargir l'histoire du monde vivant autre qu'humain, vraiment se mettre dans cette biodiversité riche et vitale pour les humains et repenser aussi l'histoire que l'on donne à lire, à comprendre, oui, partir de ces points de vue des humains, des vivants. Autre qu'humain.
Oui, parce que nous sommes des vivants. Hein. Alors le robot, pourquoi pas, mais il manque, pour l'instant, peut-être que ça viendra, mais il manque les émotions. Or, les émotions sont un point important dans la relation, surtout de nos jours avec les animaux de compagnie. Et puis, on est, comme vous le dites, on est en train de découvrir aussi qu'il n'y a pas qu'avec les animaux qu'on peut avoir un dialogue au sens large du terme, mais aussi, par exemple, avec les plantes. On est en train de découvrir quantité de capacités des plantes. Il y a une véritable éthologie végétale qui est en train de naître. Et le rapport aux végétaux est aussi quelque chose à cultiver. Ce sont aussi des êtres que l'on a transformés en objets pour pouvoir les exploiter à notre convenance, alors qu'il y a évidemment une vie chez ces êtres-là. Il y a des capacités de communication et avoir des relations avec les plantes sont aussi un moyen par exemple de thérapie.
Et donc, croiser plus que jamais l'histoire avec les sciences de la vie et l'éthologie. Dominique Autier-Derian, le mot de la fin, une dernière minute dont vous pouvez vous emparer, peut-être pour comprendre ou donner à comprendre que tout cela peut aider les hommes aussi à réviser leur façon d'être au monde, de se comporter dans cette société globale, vivant tout confondu.
Oui, complètement. On dit toujours que c'est en observant la façon avec laquelle, c'est pas de moi, mais je crois que c'est de Albert Schweitzer, c'est la façon avec laquelle les animaux traitent, les humains, pardon, traitent leurs animaux, qu'on voit leur humanité. Enfin, je paraphrase, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans un élargissement global, pluridisciplinaire. Encore une fois, je parle pour les vétérinaires, on est vraiment dans une dimension de biodiversité. On a plusieurs associations qui se sont créées, Vétérinaires pour la biodiversité. Il y a des structures vétérinaires qui se sont créées, qui justement
élargissent
complètement. Et notre métier n'est plus le même qu'avant.
Voilà. Merci à tous les deux. Dominique Autier-Derian, bien sûr, a conseillé votre livre qui s'intitule Animaux de compagnie, édité chez Quae. Éric Baratet, à lire Une histoire animale du monde, édité chez Talendier. On peut conseiller aussi vos autres ouvrages, bien sûr, dont Le point de vue animal, paru au Seuil. Et puis à vous conseiller aussi une exposition dédiée au reporter photographe franco-brésilien Sebastião Salgado. 30 ans de photos de nature, paysages, animaux, hommes. Témoin de la beauté de la planète pour mieux la sauvegarder. C'est à voir aux Franciscaines à Deauville jusqu'au 1er juin 2025 et le titre de cette exposition, Une ode à la fragilité de la Terre. Bien sûr, comme d'habitude, toutes les informations, la bibliographie, les liens sont à disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où d'autres podcasts en rapport avec le sujet d'aujourd'hui vous y attendent.